Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci d'être toujours fidèle à cette émission et surtout à votre radio Canal FM. Nous sommes aujourd'hui alors au jeudi 19 septembre 2024 et nous sommes 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes aujourd'hui alors au 4e numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betouriga est à la mise en œuvre. Jérôme Dakouti assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Miro, Radio Lapin à Pakpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bafa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. C'est également un honneur pour nous de vous savoir très nombreux dans le monde entier à nous suivre grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre page YouTube, aussi notre chaîne bien sûr YouTube, aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, nous sommes également accessibles alors sur des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi bien sûr, il y a Jean Legrand Polérigny qui est là. Jean, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrères en studio, technicien derrière la baie vitrée, et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Et
comme le dira l'autre, ça fait deux jours. Hein?
Ça fait deux jours, mais par la grâce de Dieu, on est là avec
c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On est là et je pense que la grâce, nous avons toujours cette grâce-là et on ne peut que se réjouir pour cela.
Effectivement, on a que Dieu et tant que Dieu nous donne une bonne santé, je crois que l'essentiel est là et le reste viendra.
D'accord. Oui. Ambroise Pondo a aussi reçu cette grâce. Bonjour Ambroise.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour Jean. Bonjour nos techniciens et les fils et filles de notre pays, ceux qui sont à l'intérieur que de la diaspora. Je voudrais profiter pour faire cette remarque aux institutions, que ce soit privées ou publiques, qui commettent des agences de communication pour gérer leur événementiel, surtout à l'endroit des journalistes, c'est-à-dire qui cooptent les journalistes pour travailler. Moi, je n'ai rien contre ces agences, sauf qu'ils ne traitent pas bien les journalistes. Je voudrais être clair, parce que quand un ministère, par exemple, veut organiser quelque chose ou une grande institution veut organiser et qu'on a confiance, on copte une institution d'agent de communication, ce qui doit être payé, si c'est 150 000 francs, les gens se retrouvent à 50 000 francs ou à 20 000 francs. C'est pas normal. Parce que la presse vient de très loin, au Togo. Et non seulement ça, l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est la détresse. On a quitté d'un organe simple. On est revenu à une entreprise de presse. Actuellement, on est une société. Ça veut dire que les gens paient l'impôt et les taxes. Et tout ce qui rentre, les intrants, le papier, les calques, le montage, et tout. Jean ne va pas me démentir. Maintenant, on vous invite, on va vous donner des miettes, alors que nous faisons un travail d'intérêt public. Et donc, moi, j'estime que le ministère, les institutions, que ce soit international ou dans les sociétés, les entreprises, soit vous comptez un agent, une attaché de presse ou de communication en mode sain qui gère vos événements, quoi. Sincèrement, parce que si ils ne veulent pas opter pour ça, nous, on va chaque fois revenir sur ça.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise, d'avoir touché ce point et d'avoir interpellé même d'ailleurs les uns les autres sur cette question, puisque ça nous concerne, ça nous concerne personnellement. Je veux bien parler alors de la presse. Jean?
Oui, ce que Ambroise dit est pertinent, parce que c'est une réalité. Qu'il vous souvienne que même pour le 5e recensement général de la population, c'est la même chose qui s'est produite. Une agence a coopté certains médias, et le travail n'a pas eu tache d'huile comme on le voulait. Et après, il a fallu que d'autres initiatives se mettent en place pour que véritablement la communication puisse avoir l'effet escompté. Et au-delà de ce qu'Ambroise dit, moi je voulais également interpeller certains ministères, parce que vous savez, la presse fait un travail immense, un travail qui est reconnu, mais dans les œuvres, j'ai comme l'impression qu'on ne reconnaît pas le travail de la presse. Pourquoi je le dis? Ça fait quelques années qu'on nous demande à nous, acteurs des médias, de nous professionnaliser. Et Dieu seul sait combien ce que nous endurons avec les impôts et toutes les taxes aujourd'hui auxquelles nous avons face.
Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. Et imaginez qu'un ministère vous envoie une invitation pour un travail, une couverture médiatique, et après on remet 5 000 francs aux reporters, on dit que ce sont des placements. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est avec 5 000 francs qu'un article est produit et diffusé, et tiré sur un papier ou diffusé en ligne?
Moi, je me fais, non, il faut qu'on arrête ça.
On vous dit, mais il n'y a pas de ligne budgétaire.
Bon, il n'y a pas de ligne, alors ne communiquez pas. Vous invitez les médias et après, on me donne 5 000 francs. Comment vous voulez qu'avec 5 000 francs, un média puisse se professionnaliser? C'est des questions que moi, je pose.
D'abord, le résultat est un problème.
Et ça ne nous arrange pas. Ça ne nous, ça clochardise la pièce, la presse, en fait. Il faut qu'on donne du respect à la presse. Vous invitez un média, une société, ce n'est plus des organes. Tu payes les impôts, vous voulez voir votre article dans le journal, mais vous donnez 5 000 francs de déplacement. Le déplacement, bon, le gars s'est déplacé, s'il ne peut pas l'article, bon, à qui vous allez vous plaindre maintenant? Véritablement, il faut que les ministères essaient vraiment de corriger cet aspect de la chose.
Alors, entre-temps, il y a les organisations de la presse qui avaient organisé quelque chose de ce genre.
Effectivement, il y avait une grille tarifaire unique, voilà. Même les chariots de communication de grands studios avaient été invités, mais il faut dire que dans la pratique, l'initiative n'a pas prospéré.
Parce qu'il a prospéré, pourquoi
je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Mais ce que je sais, c'est que quand on donne aujourd'hui un montant donné, vous allez voir qu'on va approcher certains par derrière qui vont accepter un montant plus bas
ça.
Pour que les autres ne puissent pas en bénéficier. Tant qu'on n'est pas unis, je crois que c'est compliqué vraiment qu'on puisse se faire entendre sur certains plans.
Voilà, nous appelons cela. Ça se trouve pas aussi là. C'est-à-dire,
ça se trouve en notre sein,
justement. Quand tu évoques
l'unité ou l'union en notre sein,
Je pense quand même que le problème aussi se trouve là à base.
Oui, justement, c'est là où je voudrais en venir, dans ce sens que le problème. Ce qui coupe le penis du cheval, ça se trouve en son sein. Il y a des bobies galeuses dans tout corps de métier, tout comme dans notre corps de métier. Il y en a qui sont venus au journalisme par passion, je l'ai dit par le passé. Il y en a qui sont venus par la recherche du gain, c'est-à-dire la recherche du communiqué final, le gombo, comme le Cameroun l'appelle. Il y en a qui sont venus pour faire du business. Ils ne sont pas des journalistes. Et je l'ai dit la dernière fois ici, on se connaît. Maintenant, moi, je ne veux pas tirer quoi que ce soit par règle de confraternité. Mais je me dis qu'il ne nous arrange pas quand quelqu'un vous me coopte, par exemple. Tous les confrères me connaissent. Hein. Quand toi, parce que tu veux organiser quelque chose, ce que moi je dis aux organisateurs, pour le minimum de déplacement, au moins 5 000 francs pour le déplacement. Ça, c'est le déplacement. Maintenant, pour ce que le journal va publier là, c'est minimum 50 000 francs pour le quart de page. Pour le quart de page. Maintenant, si vous voulez qu'on publie un truc au dos ou à la une du journal, mais attendez, vous allez payer 200 000 francs. Il faudrait que nous-mêmes, on s'entende sur ce minimum-là. Et ce qu'il dit est très important, c'est qu'il y en a qui passent par derrière, ils disent, bon, l'autre veut publier à 100 000. Bon, si vous me donnez 25 000, moi, je vais publier. Ils se détruisent et ils détruisent la presse.
Effectivement.
Moi, je ne ferai jamais ça. Il y en a certains contrats qui vont se rappeler, les 2 000 francs, 3 000 francs sur le terrain, c'est moi qui ai arrêté ça. Et c'était en 2008. Je ne vais pas citer le ministère de l'Église. Je ne veux pas citer l'organisation, c'est moi qui ai arrêté ça. Moi, j'ai boudé, je suis parti, c'était où boudé, ils sont partis. Et à partir de cet instant-là, beaucoup ont compris que, ne serait-ce que tu sais déplacer, 5 000 francs peut déplacer la personne. Parce que l'organe qui envoie le reporter, des fois, c'est le journaliste même qui se déplace. C'est le reporter qui se déplace. Maintenant, ils font bien quand même de déplacer les gens. En dehors de payer, maintenant, la facture du travail et la prestation que la personne doit faire.
Tout à fait.
Il y en a certaines institutions qui confondent les deux. Ils nous donnent 5 000 francs parce que moi, je ne passe pas. Moi, je vais aller cher. Je le vends. Depuis que moi, j'ai commencé à parler, ça fait 10 ans. C'est 5 000 francs. Mais comment 500 francs, comment je vends
que vendez,
parce que le papier, tout est couleur, quoi. Et le papier, c'est tout blanc. Ce n'est pas... Excusez-moi, monsieur le confrère, mais ce n'est pas du... Il n'y a pas du déchet à l'intérieur, quoi. Et donc, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour quand même attirer l'attention des organisateurs, des institutions, des entreprises, que nous aussi, nous sommes une entreprise, nous sommes une société. Et on a besoin de nous nourrir d'abord, nourrir ceux qui travaillent avec nous, payer l'électricité, le téléphone, payer la connexion Internet et tout. C'est tout, tout.
c'est tout un travail et c'est toute une fortune.
C'est donc une fortune.
Très simple à comprendre.
Oui, très simple à comprendre. Et tel que vous l'avez dit tout de suite, il est aussi important que nous faisons aussi le ménage à notre sein, surtout avec les organisations de presse. Je pense quand même que on pourra même mieux s'organiser pour que, du moins, nous ayons une voix unitaire pour devant nos clients, comme cela se doit. C'est très important. Alors, Ambroise, je reste toujours avec toi. C'est vrai que autrefois, tu parlais alors du prix de gaz qui est tellement élevé. Mais cette fois-ci, dans votre journal d'aujourd'hui, vous vous intéressez plutôt alors au pétrole et au carburant à la pompe. Et vous écrivez de 5 $ le baril du pétrole à 69 $ de grâce, diminuer le prix du carburant à la pompe. C'est en quelque sorte cette demande que vous êtes en train de faire ce matin.
Oui, là, je n'ai pas envoyé de flèche. Moi, j'ai juste attiré l'attention des autorités. Et vous allez voir là où c'est la photo du madame la première ministre que j'ai mise là. Et cette photo, quand vous lisez l'article, vous comprendrez que il n'y a même pas le nom de la madame la première ministre dans cet article. Juste pour dire que c'est une question de tout le gouvernement togolais. Il y a la ministre du Commerce, certes, mais il y a un gouvernement qui décide de tout, à qui on confie la production ou l'importation du pétrole, du carburant. Le carburant est un produit sensible et est un produit stratégique qui, lorsque ça manque dans un pays, ça peut susciter des émeutes, ça peut susciter tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, chaque gouvernement dans tout pays essaie de réguler et de canaliser certaines subventions. J'ai appris que l'État togolais aussi subventionnait ou subventionne au point que il y a 2 ans, j'ai remarqué que la subvention est finie surtout au niveau du gaz. Le gaz qu'on payait à 5 000 francs ou à 6 500 francs, la boule d'or peut-être de 12,5 est revenue à 10 000 francs en voulant 100 francs. Donc moi, je ne sais pas si je me suis encore appelé de prendre les 100 francs. Maintenant, pour le pétrole, vous avez remarqué qu'on était à 105 $. Il y a de cela 2 ans. Maintenant, on est à 69, 72, 73. Les 5 jours qu'on a passé là, ça flotte entre 108, 109, 110, 112. Et le pétrole à côté est à 450 francs ailleurs. Au Nigeria, c'est pratiquement à 200 francs. Hein. C'est vrai qu'au Nigeria, on dira que Dangote vient de lancer sa raffinerie.
Sa raffinerie,
ça ne règle pas le problème. En Libye, on dira que c'est des producteurs. Ici, c'est vraiment où on achète. Même si on nous dit aussi que le Togo produit du pétrole offshore, dans la haute mer, je n'ai pas encore pris mon bateau. Un bateau pour aller là-bas, il faut vérifier. Mais ça se dit partout. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte? Et le gouvernement, vous allez vous rappeler, le gouvernement avait dit, le 19, ils avaient augmenté le 19 juillet 2022. La dernière hausse, c'était à 700 francs le prix des 500 plombs. Le gaz, on était à 850. Et le pétrole, l'emprunt était à 850 francs.
650.
Et ils avaient à 650 plutôt. Mmh. Et ils avaient justifié que c'est parce que le prix du baril était à la hausse au plan international. D'accord. Et on a consommé ça, il y a 2 ans. Maintenant, monsieur les membres du gouvernement, madame la première ministre, le prix à la pompe est aujourd'hui, au lieu de 200, au lieu de 100, 150 ou à 110 francs, aujourd'hui nous sommes à 69 francs. Qu'est-ce que vous en faites pour soulager un tant soit peu la vie des Togolais, des usagers de la route? Et non seulement des usagers, puisque le pétrole est transversal, est un produit transversal qui rentre dans tout. Il suffit qu'on coupe les revenus au Togo actuellement, vous allez voir ce qui va se passer. Même la bonne frontière au marché ne peut pas venir au marché parce qu'elle n'a pas trouvé le taxi pour venir au marché. Celui qui doit venir au travail à la fonction minimum, il ne viendra pas. Donc, ne serait-ce que la souffrance que les gens vivent déjà, cette misère que nous vivons, que le gouvernement diminue au moins à 500 francs. Ne serait-ce qu'à 500 francs le prix pour qu'on respire un peu en attendant que le prix remonte encore à 90 francs le baril. C'est ce que nous avons essayé d'écrire. Donc c'est simple, quoi. C'est une doléance, c'est un coup de... On va appeler ça coup de cœur, non? J'ai dit, de grâce, diminuer le prix du carburant à la pompe. J'avais même mis, s'il vous plaît, mais j'ai enlevé ça. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, diminuer un peu le prix du carburant.
D'accord.
On va souffler, on va souffler un peu, parce qu'on est contingenté. On est étouffé. Le Togolais est dans une bulle actuellement.
D'accord. Oui, Jean, c'est vrai que quand on parle alors du carburant, du pétrole, ou du carburant à la pompe, c'est quelque chose qui touche même le quotidien du Togolais ou des citoyens, parce que il suffit simplement qu'on ait une augmentation même d'ailleurs de ces carburants à la pompe, automatiquement vous verrez que les autres prix, ou les prix des autres produits aussi, des produits vivriers et autres, alors grimpent. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a forcément besoin quand même qu'on diminue aussi le prix de ces carburants à la pompe, surtout que le prix du baril a diminué.
Oui, vous savez, on nous a toujours expliqué la fluctuation du prix du carburant à la pompe par rapport au prix du baril à l'extérieur. Et bon, nous argumentons sur la base de faits et de chiffres. Ambroise a tantôt parlé d'une diminution du prix du baril. Cela va de soi que normalement, nous assistions à une réduction du prix du carburant à la pompe. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Beaucoup de voix sont levées depuis quelque temps pour vraiment appeler à ce qu'on ait cette réduction. Si aujourd'hui le gouvernement ne s'exécute pas, au moins qu'on nous explique qu'est-ce qui fait que au Togo, avec le prix du baril qui a baissé, nous payons toujours le carburant à un prix autant élevé. Je ne sais pas actuellement quel est le prix par rapport aux autres pays qui n'exportent pas le carburant. Je ne peux pas faire une analyse comparative. Mais comme tu l'as tantôt dit, aujourd'hui, le carburant, une fois que le prix du carburant augmente, les transports augmentent, le coût des marchandises augmente parce que il faut répercuter le prix du transport sur les marchandises. Et qui paie le plus gros tribut? C'est le consommateur, c'est le panier de la ménagère. Et quand on parle de carburant, il faut également ajouter que c'est la vie chère qui se généralise sur tous les produits. Et à la dernière rencontre du CPC et le cadre permanent de dialogue et de concertation, le bureau du CPC a annoncé qu'ils ont envoyé une demande au ministère du Commerce afin que le ministère vienne s'expliquer d'ici demain pour donner les détails, pourquoi on a cette vie chère et quelles sont les pistes de solutions qui peuvent être explorées afin que le panier de la ménagère soit allégé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que ça ne va pas. Et la vie chère, vous n'avez pas besoin de faire une enquête pour savoir que la vie est devenue plus chère. C'est quelques mois. C'est vraiment perceptible quand vous allez au marché et même quand au niveau des fournitures scolaires, tout ça, les parents de l'Est se plaignent. Parce que la vie chère atteint un niveau élevé. Et aujourd'hui, ils urgent que des solutions soient trouvées. Qu'on nous explique. Et le CPC l'a compris, parce que je dis que c'est un cadre pour tous les acteurs politiques de s'exprimer. Et tous ont trouvé que c'est une urgence. On ne va pas seulement parler de politique, mais il faut également parler de ce qui touche directement au panier de la ménagère
du social.
Et nous attendons dans les heures à venir. Qu'est-ce que vous direz sur ce point?
D'accord. Oui, mais Ambroise, c'est vrai que quand on parle alors du carburant, répercute bien sûr sur la vie chère, tel que Jean l'a dit tout de suite. Et cette vie chère en question, aujourd'hui, c'est tout, c'est le monde entier même d'ailleurs qui en souffre. Même quand on prend même d'ailleurs le Ghana à côté de nous, et c'est toujours, ils subissent même d'ailleurs aussi cette question de vie chère. Le Nigeria, n'en parlons même pas, le Bénin à côté de nous, n'en parlons pas. Le Togo ne fait pas l'exception quand même.
Oui, ceux qui sont souvent dans ce langage, ce narratif, moi, je ne les dédouane pas, parce que on parle du Togo. Parce qu'à chaque fois qu'on crie sur les questions politiques au Togo, certains qui dirigent ce pays vous diront que le Togo, c'est le Togo, le Bénin, c'est le Bénin. Et donc, restons dans le cercle Togo pour dire que le Togo est riche. Que ce personne ne vous trompe. Nous avons le clinker, nous avons le calcaire, nous avons le phosphate. Je ne sais même pas si l'argent la rentre au trésor public. Nous avons le port autonome de Lomé, un joyau en eau profonde que nos autorités elles-mêmes vantent tout le temps. Et donc, à part ça, il y a aussi de l'or, il y a du manganèse, il y a plein de choses. Maintenant, il y a aussi les impôts, les taxes que l'État perçoit. Alors, 8 millions d'habitants pensent qu'on devrait souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Même si des diplômés qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, moi, un expert m'avait dit que chacun pouvait avoir au moins 100 000 francs par mois. Comme ça se passe en Suisse, en France et ailleurs, où on paie des allocations à ceux-là qui sont des diplômés, qui ont un certain âge, mais qui sont dans la précarité. Ne serait-ce que pour éviter certains problèmes sociaux. Et donc, aujourd'hui, comme ils disent que le Bénin a ce problème, le Bénin a cette réalité. Vous savez ce que le président du Bénin a construit dans moins de 6 ans? Oh, mais je dirais qu'on n'a pas raison. Mais je vous dis que les Béninois
ont été, la plupart dans les années 60, 70, 80, ont été formés ici au Togo. C'est les Togolais qui sont allés former les Gabonais, les Centrafricains, les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème de management. Il y a un problème de gouvernance. Certes, il y a certaines choses qui se font dans le pays, mais on ne va pas applaudir. Il y a plein de choses que j'ai lues sur les plateformes. On n'a pas d'échangeur au Togo. On me dira que c'est les gens à manger. On n'a pas de train, justement. Si on parle de manger là, le train de l'Omé à 5 à 6, je le crie ici tous les temps. Le train de 5 à 6 permettra aux voyageurs de venir avec leur production de maïs, de riz, de bananes, tout ça là, des fermes, pour rejoindre les grandes villes. Parce qu'il n'y a pas de route qui doit même quitter les fermes pour se retrouver sur la chaussée, sur les routes principales, les nationales numéro 1, 2, 3, 4 là. Maintenant, si on a au moins un train, les gens vont s'efforcer et on a des routes adjacentes qui titent les routes ou les trains pour aller, mais on va les tourner de bons trains, de les mettre en cassé, transport de marchandises et des hommes et femmes, mais on va se libérer. Il n'y a pas de stade. C'est vrai, on n'a pas de stade, on a un seul stade homologué. La Côte d'Ivoire a construit 6 stades ou 5 dans moins de 3 ans pour la CAN. On n'a pas un grand hôpital de référence public.
Voilà, docteur, la fièvre,
non. La fièvre, je dis public, je ne veux même pas arriver sur ce terrain. On n'a pas, il y a encore, les gens ont cité, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Maintenant, nous, c'est ce qu'on va, que les Togolais respirent un peu là. Nous, on veut manger là. Que l'huile qui était à 12 500 était revenu à 25 000. Tu te rappelles, le bidon de 25 litres là, je ne sais pas à quel prix on le vend maintenant. Le gari est à 1 200 300 francs, le maïs est à 1 000 francs. Le maïs que moi j'ai acheté à peine un an à 450, 500 francs, 600 francs. Et le maïs, c'est que quand ça augmente, quand les choses diminuent, le prix diminue plus.
Le haricot, lui, c'est plutôt à
2 000.
Non, 3 000.
Ah.
À 3 000 maintenant.
Le haricot, je l'ai acheté à peine 8 mois à 2 200.
Maintenant, c'est à
3 000. Aussi. C'est à 3 000. Oui. Heureusement que je n'en mange pas trop. Mais je me dis quand même qu'il y en a qui sont friands, qui sont fans de certains produits. Les denrées, c'est-à-dire que les poissons fumés et autres là, ça a augmenté. Le poisson, même, tout ça a augmenté. S'il y en a qui ne mangent pas la viande rouge, ils sont accommodés sur les poissons. Ça, tout a augmenté. Maintenant, si on cherche à comparer le Togo à d'autres pays, je dis bien qu'à côté ici, au Bénin ici, même j'ai vu plus d'une centaine d'ambulances pour les hôpitaux. Moi, j'ai dit, Fonda Sibé, peut-être, peut mieux faire. Quand on a parlé de AMU, nous, on a tiré sur la main, on a envoyé des flèches à AMU. Parce que jusqu'à présent, les gens souffrent de cet AMU-là. Ils n'ont même pas la carte. Les hôpitaux, les CMS-là, il faut les équiper. J'ai appris qu'ils ont fait quelque chose la dernière fois.
Effectivement.
Félicitations. Je leur envoie une félicitation pour ça. Mais c'est insuffisant. Il faut agrandir les CMS. Quand vous allez à Cébé, un grand quartier qui regroupe au moins 6 villages, Clémé, à 14 Avoine, à 14 VP, à 14 Demé. Et c'est dedans, ajouté à Sabado, et c'est de même, je vous dis qu'il y a du monde là-bas. Pour un CMS d'à peine combien de kilomètres, combien de mètres carrés, je ne sais même pas. Il y a peut-être un seul médecin, qu'on a fait il y a même pas quelques temps. Il y a peut-être deux infirmiers, il y a deux laboratoires, il y a des accoucheurs, un ou deux. Donc, il n'y a pas de matériel. Il faut équiper les CMS.
D'accord.
Là, les centres, les grands centres seront désengorgés.
D'accord. Oui, mais Jean, c'est vrai, quand on suit le développement d'Ambroise, tout de suite, on comprend qu'on a autant de richesses au Togo. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a autant de richesses qu'on peut mieux vivre?
Oui, vous savez, moi j'ai dit, Dieu n'a créé aucun pays pauvre. Vous savez, il y a des pays, le Japon par exemple, n'a pas de minerais, n'a aucune richesse du sous-sol. Mais le Japon fait partie des 10 premières puissances mondiales. C'est-à-dire que même sans ressources minières, un pays peut se développer. Tout dépend de la vision que nous avons, de là où nous voulons envoyer notre pays, et qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Et à combien plus forte raison, nous qui avons des ressources minières, nous pourrons véritablement, on peut dire, on ne devrait pas normalement être à la traîne. Encore nous qui avons, bon, je ne vais pas répéter tout ce qu'Ambroise a dit, Le Togo est riche de son sous-sol. Nous avons du phosphate, du clinker et tout, et beaucoup de choses qu'on peut vraiment exploiter. Mais la situation que nous vivons au Togo est symptomatique de plusieurs pays africains qui vous souviennent que depuis environ 50 ans, le développement de l'Afrique peine. Rappelez-vous que le Ghana, en 1960, avait le même PIB que la Chine. Mais aujourd'hui, où est la Chine? C'est la Chine qui a convoqué maintenant tout un continent et tous les chefs d'État ont couru la dernière fois au pied du maître Xi Jinping. Tout est question de vision, moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que à quoi ça sert que nous ayons des richesses, mais si nous n'arrivons pas à les manager comme cela se doit, si dans la gestion de ces richesses, on n'arrive pas à ressortir vraiment l'essentiel, ma foi, nous allons toujours rester à la terre.
Alors, vous pensez que nous n'avons pas de vision?
On a une vision, certes, mais qui n'est pas véritablement profilée. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes aujourd'hui 60 ans après les indépendances. Où sommes-nous? On peut faire un bilan de nos États africains. Où sommes-nous? Nous sommes encore à la terre. Mais qu'est-ce que la Chine et autres ont fait? La dernière fois, c'est la Corée du Sud, qui nous a encore convoqués quelques mois plus tôt. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Et aujourd'hui, nous sommes toujours là, à tendre la main, à attendre que tel pays nous donne tel fonds, tel fonds. Non, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose véritablement la bonne question. Aujourd'hui, je ne peux pas directement dire que c'est X ou c'est Y, mais c'est un ensemble, c'est un système véritablement qu'il faut carrément formater et nous asseoir et voir ce qu'il faut faire pour véritablement améliorer la gouvernance, améliorer le bien-être. Parce que l'Afrique est riche, le Togo est riche. On nous a tantôt parlé de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous savez, quand on investit, mais dans le contrôle de redevabilité, on ne sent pas qu'il y a une pression, on ne sent pas que ceux qui gèrent le bien commun, le bien public, ne sont pas véritablement inquiétés, bon, on peut assister à n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de pression derrière ceux qui gèrent le fonds public. Il y a un certain, je veux dire, un petit laxisme. Mais comprenez que les gens vont se plaindre. Pourquoi aujourd'hui les gens disent qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas? Parce qu'il y a des zones d'ombre dans la gestion de ce qui est fait. Et il se pose toujours des questions. Pourquoi on dit que nous avons un point en eau profonde? Pourquoi nous avons ça et les choses coûtent cher dans ce pays? Même quand vous discutez avec les étrangers qui vivent au Togo, la dernière fois, il y a un qui disait que vous, votre pays est riche, normalement, chaque Togolais pouvait avoir deux, trois maisons. Qu'il y a l'argent dans ce pays, mais l'argent ne circule pas. Moi, bon, je ne suis pas macroéconomique, je ne peux pas leur expliquer que voici, parce que je n'ai pas les données économiques pour pouvoir le dire, mais il faut comprendre que le citoyen lambda aujourd'hui veut beaucoup plus. Il veut beaucoup plus. Et moi, je dis que si le gouvernement, aujourd'hui, ne prend pas la mesure de la chose pour ajuster rapidement le tir, d'ici quelques années, nous avons une jeunesse qui est en train de grandir. Et la jeunesse togolaise, pour ne pas dire africaine, est beaucoup plus exigeante. Elle ne va plus se laisser faire parce que les jeunes voient ce qui se passe de l'autre côté. Les jeunes voient que c'est meilleur de l'autre côté. Et pourquoi pas chez nous, ce n'est pas meilleur? Les jeunes vont devenir beaucoup plus exigeants vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est vrai, on a une ancienne classe, mais qui est aujourd'hui en train de partir? Et véritablement, il faut qu'on réfléchisse. Il faut que le gouvernement réfléchisse. Sinon, moi, je dis que le pire est devant. Aujourd'hui, nous avons la montée des groupes djihadistes et tout ça, qui sont venus descendre. Ça amène aujourd'hui nos dirigeants à être beaucoup plus attentifs, à fournir beaucoup plus d'efforts. On ne peut plus aujourd'hui se cantonner du petit lieu et puis on se dit non, il faut beaucoup plus. Parce qu'un temps va arriver où vous n'aurez plus le temps de vous expliquer. Quand les gens ne seront plus patients, les gens ne pourront plus attendre, mais ils vont réagir. Et on ne veut pas qu'on en arrive là. Véritablement, que le gouvernement essaie de voir, d'ajuster le tir et améliorer le quotidien des Togolais.
Vous vous intéressez à un autre sujet, dans votre journal d'aujourd'hui, le journal de Guadeloupe. Alors, c'est cet arrêté d'interdiction de fêtes traditionnelles après Aïzan, dans le Zior. C'est un arrêté pris par le préfet. Le préfet du Zior, M. Kadeli, et vous écrivez que arrêter d'interdiction de fêtes traditionnelles après Aïzan dans le Zior, une décision du préfet Kadeli qui menace la cohésion et la paix sociale. Alors, en quoi cette décision menace la cohésion sociale et la paix, et la paix sociale, même, justement, alors dans la localité?
Oui, d'abord, demandons-nous quelles sont les prérogatives du préfet dans une préfecture. D'abord, le préfet, pour le minimum, Le préfet représente le pouvoir central dans la préfecture. D'ailleurs, il représente tout l'ensemble du gouvernement.
Tout à fait.
Comme étant une autorité déconcentrée dans le gouvernement, dans la localité ou dans la préfecture. Maintenant, le préfet contrôle aussi les actes des collectivités territoriales ou des actes issus de la décentralisation. Et donc, le préfet joue le tampon entre ce que font les maires et ce que le gouvernement demande de faire. Et il peut y avoir une réaction de la part des maires à l'endroit de la justice par rapport à certains actes posés par le préfet. C'est ce qu'on demande au préfet de faire dans les préfectures. C'est le répondant direct du gouvernement. Relayer ce que le gouvernement veut faire dans les préfectures. Maintenant, un préfet qui prend un arrêté d'interdire les fêtes traditionnelles, moi je ne trouve pas son opportunité. Parce que l'arrêté, si vous lisez bien l'arrêté, après le visa et les considérants, l'article 1, d'ailleurs, dit considérant que la fête de la préfectorale à Isan doit clôturer le cycle des fêtes traditionnelles dans la préfecture. Vous entendez ça? Quelle loi demande au Togo qu'un préfet prenne un arrêté pour interdire la fête après une autre fête? Aïssa est une fête liée aux gens qui sont venus de Montier, qui se sont installés à Thévi. C'est propre à leur culture. Quand on prend par exemple Epesoso ou Evala, c'est des fêtes rituelles. C'est un rite, observe ces populations-là ou ces communautés-là, depuis le temps immémorial, depuis le temps allemand, passant par la condition française jusqu'à Eyadema. Eyadema, même en son temps, était un dictateur. Mais Eyadema laissait faire. Fon Yassimbé étant arrivé, je ne vois même pas Fon Yassimbé s'opposer à ce que les gens célèbrent le fait traditionnel. Maintenant, il continue en disant le fait traditionnel des cantons, ça c'est l'article premier de son arrêté, des cantons et villages de la préfecture de Gio doivent dorénavant être organisés avant la fête à Isan. Quand j'ai lu ça, je tombais de lui, quoi. Même des gens qui ne sont pas de la préfecture ont appelé, ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Il poursuit dans l'article 2 que la fête préfecture à Isan demain, la célébration de clôture des fêtes traditionnelles dans la préfecture et a lieu chaque deuxième samedi du mois d'août sous réserve de modifications éventuelles par l'autorité. Après cette date, aucune organisation de fêtes traditionnelles ne sera autorisée par l'ensemble du territoire préfectoral. Ça, c'est le préfet qui le dit. Article 3, pour chuter, le secrétaire général de la préfecture des Gior, les autorités communales, chefs traditionnels, chefs cantons sont chargés chacun. Vous avez... Tu as entendu ça? Et la première question qu'on se pose, est-ce que c'est une prérogative du préfet? Les fêtes traditionnelles sont issues des émanations de la volonté des populations d'une communauté ou d'un canton ou d'un village à travers les membres de vos ancêtres pour faire reconnaissance à quelque chose. Et c'est un rite qui vient des oracles. Ils ont consulté avant d'avoir cette période. Et voilà, se fait en juin, non? Depuis, c'est un jeu. Donc, pourquoi ceux qui gouvernent Evala n'ont jamais dit que après Evala, il n'y aura plus de fête au Togo? Ebeto, ça c'est la fête de tous les éveillés, dans Agobo, ou bien à Montien. C'est le deuxième samedi du mois de septembre. Mais le chef Agokon, il n'a jamais dit ça. Encore moins le préfet de la zone n'a jamais dit ça. Le ministre de la zone n'a jamais dit ça. Mais là, qu'est-ce qui motive le préfet à prendre une telle décision? La dernière fois, c'est le frère de Davier qui a voulu célébrer, mais ça, c'était un chaos. Les gens étaient vraiment mécontents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 16 cantons de la préfecture de Gior doivent s'accommoder en dehors du premier samedi du mois d'août, qui est le mois de vacances des enfants. Moi, au cours duquel les enfants et les parents descendent dans les villages, y compris ceux de la diaspora, pour célébrer au moins leur village et développer leur village, leur canton, le préfet ne veut pas. Ça veut dire que s'ils doivent célébrer leur fête, c'est le mois de juillet, 4 semaines, 4 samedis. Le mois de juin, 4 samedis. Et donc le mois d'avril, nous sommes en période de classe. Les enfants sont peut-être en période d'examen. Même après ça, on va commencer la rentrée. Quand est-ce que les gens vont célébrer leur fête traditionnelle? Mais je vous rappelle que les fêtes traditionnelles sont faites pour faire revenir tous les natifs du milieu,
tout à fait,
pour contribuer au développement. Oui. Quelqu'un qui vient, son ancêtre n'a plus de piole, il va construire, ça participe au développement. Donc, nous estimons qu'il faut rapporter ce décret. Ça, ce n'est que les prémices. Oui. Sinon, on va revenir sur ce sujet. Parce que le préfet doit être un ami ou un frère
ce qui touche l'intérêt général, nous, ça nous badine. Donc, moi, je lui demande tout simplement, si c'est un décret qui est inspiré par lui-même, un arrêté qui est inspiré par lui-même, ou par quelqu'un, qu'il apporte carrément. Sinon, pendant un an, ce serait une campagne.
D'accord.
Comment je ferai pour ça?
D'accord. Alors, Jean, un préfet hein, qui prend une telle décision, est-ce que déjà, il outrepasse même d'ailleurs ses prérogatives?
Oui, cela revient à se poser la question de savoir est-ce que c'est dans les prérogatives du préfet. Moi, je n'en sais rien pour le moment. Je sais quand même que le préfet est le représentant du pouvoir central dans une préfecture et exerce le contrôle de l'égalité des maires. C'est-à-dire, il vérifie la conformité des actes que les maires prennent.
Tout à fait.
Mais est-ce que de là, il est autorisé à prendre un décret visant à régenter l'organisation des fêtes traditionnelles ou le calendrier? Ça, je ne saurais le dire. Je n'ai encore jamais vu ça. C'est la première fois que moi, j'observe pareille situation.
Mais qu'est-ce qui peut motiver?
C'est la question. Qu'est-ce qui peut motiver pareille situation? Pourquoi veut-on que, après Aïzan, il n'y ait plus de fête dans la préfecture du Dior?
Ça n'a pas de sens, quoi.
Qu'est-ce qui motive? Ou bien quels sont les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce que cela va engendrer? Ou bien quels sont les bénéfices de cet acte? Moi, bon, dans le développement d'Ambroise, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu quel avantage le préfet donne à ce que les fêtes s'allument avant celle d'Aïzan, je ne l'ai pas vu. Mais moi, j'ai dit un truc. Les fêtes traditionnelles, c'est-à-dire que c'est des événements qui sont très culturels et qui concernent les communautés. Et on ne peut pas, sur un coup de tête, changer des dates comme ça. Vous allez mettre à mal le bien-être, la cohésion sociale. Parce que vous imaginez, si les gens disent que non, nous, à notre niveau, nos ancêtres ont dit que c'est tel moment, et aujourd'hui, on vient changer, ça peut créer beaucoup de troubles. Moi, je dis qu'avec cette situation, telle qu'Ambroise le dit, je crois que plusieurs communautés ne sont pas d'accord. Et le supérieur hiérarchique du préfet, c'est le ministre de l'administration territoriale et de la chefferie coutumière. Je crois qu'il doit se reporter vers lui parce que si aujourd'hui l'État a rattaché la chefferie coutumière au ministère de l'administration territoriale, c'est pour lui donner un poids davantage. Et je crois que cette décision ne peut pas se limiter juste au désiderata d'un préfet. Et le ministre de l'administration va trancher définitivement ou rapporter ce décret en tout état de cause.
Il a posé une question. Que, oui. Il a dit, qu'est-ce qui peut motiver le préfet?
Justement, c'est cette question.
Dans les considérants, oui. Le premier considérant, il dit, considérant la nécessité de maintenir l'ordre et la cohésion dans l'organisation des fêtes traditionnelles dans la préfecture de Dior. Et le second considérant dit, considérant l'importance des fêtes traditionnelles pour la sauvegarde des soucis coutumes. Ça, il y a une contradiction. On ne peut pas, il a dit quelque chose de très important. Les rites sont propres à chaque histoire liée à chaque communauté. On ne peut pas parler, dans ce sens, considérant là, que vu l'importance des fêtes traditionnelles dans les us et coutumes, et maintenant demander aux gens de ne pas célébrer selon les dates qu'ils veulent, décidées par l'oracle. Parce que nous sommes en milieu élevé, hein, et quand les dates sont décidées, ils confient aux dieux. C'est les dieux qui décident. Allez demander aux gens d'Alaro, allez demander aux Kabyens qui sont dans la région de la Kara, comment ils font ça, et que c'est à chaque fois c'est le monde du jeu qui font ça. Et donc, la décision, c'est pour moi une décision te fait des ailes. Elle est inopportune et impopulaire. Que le ministre de l'administration appelle son collaborateur, son commis, pour rapporter ce décret-là. Sinon, à chaque fois que je suis ici, on va le dire. Oui, parce que, mais imaginez qu'on célèbre le mois de juin, qu'on nous a obligés de célébrer. Il y a un seul samedi, le premier samedi du mois d'août, que tous les 16 cantons sont obligés de célébrer. Le pire, c'est que chaque village, par exemple, Kouma, l'autre là, donc, il y a des villages aussi qui célèbrent ça, non? Si ces villages aussi décident maintenant de rentrer dans la danse, de créer une émulation, de retrouvailles dans leur fête traditionnelle dans leur communauté, mais on aura plus le samedi, alors que c'est le samedi que les gens célèbrent ça. C'est le samedi. Et donc, on va se rabattre sur le mois de juin, les enfants sont en plein examen, aucun parent ne va hasarder à envoyer son enfant dans un village pour faire quoi que ce soit. Et la diaspora, les gens de la diaspora descendent pour participer financièrement à ces fêtes de retrouvailles qui sont en même temps des fêtes traditionnelles. Donc je ne vois pas l'importance. Je ne vois pas. Et donc, l'année passée, j'ai appris ça. Lui-même qui avait dit ça. J'ai eu à dire quelque chose en lui disant que ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Ça sort d'où? Et j'ai eu à comprendre le temps là que c'est les chefs traditionnels, tant. Aucun chef n'est supérieur, aucun chef canton n'est supérieur à l'autre. Il faut que ça soit clair. Dans le décret qui réorganise la chefferie, aucun chef canton, même Tchéguier est un canton, avant de devenir ville. Donc, moi, c'est le fait qu'ils sont à Tchéguier. Il ne faut pas chercher à nous opposer, à nous diviser. Donc, les gens de Corrier ou les gens de Diagne ou de Bli diront que donc, on prend les gens de Tchéguier, ils sont plus importants que nous. Quand ils sont arrivés à Tchéguier, c'est Haï. C'est le haricot qu'ils ont célébré, qu'ils ont planté, qu'ils ont mangé. Quand les gens sont venus à Nishintabé, c'est les Chinois qui ont amené le riz à Nishintabé. Et ils ont choisi de célébrer comme fête traditionnelle. Quand tu vas à Bli, je crois que c'est à Belizan, à Deza ou quelque chose comme ça. Donc chacun a sa fête. Mais vous voulez que tout le monde célèbre ça le premier samedi du mois d'août. Donc s'il doit y avoir un commis de l'administration qui doit venir représenter l'autorité ou l'État, tout le monde, ils vont faire comment?
On se démultiplie.
Voilà, Jean, en quoi cette décision peut menacer même la cohésion sociale?
Non, c'est évident. Vous imaginez toutes ces communautés-là qui avaient déjà un chronogramme, un calendrier bien établi, qui aujourd'hui sont obligés de rapporter leurs fêtes à une certaine date. Mais vous imaginez les considérations que chacun peut avoir tantôt en gros, dit. Est-ce que ça veut dire que telle communauté est supérieure à nous et nous ne pouvons pas fêter après eux? Ou qu'est-ce que cela va sous-entendre? On est en Afrique et quand on veut poser un acte, il y a ce qu'on appelle souvent études d'impact environnemental, sociétal,
études sociologiques.
Il faut essayer de comprendre la sociologie des populations. Et on ne peut pas sur un coup de tête faire un remangement pareil. Le Togo, nous dormons sur des braises.
Voilà.
Nous tous, il faut pas qu'on
sur un volcan.
Il faut pas que nous mourions sur cet aspect de la chose. Et sur certaines choses, il ne faut pas mettre du toit, il ne faut pas chercher à amener la communauté à s'affronter. Nous avons beaucoup de problèmes que nous sommes en train de régler petit à petit. Il ne faudrait pas qu'on en rajoute. D'autant plus que moi, je ne vois pas l'avantage palpable de rapporter ces fêtes-là après la fête des ans. Si on nous disait que ça nous apportait un gain financier, ça nous permettait d'avoir quelque chose, on comprendrait. Mais du moment, depuis longtemps, les gens organisent les fêtes comme ça. Ça n'a jamais cru de prouver à quelqu'un de faire sa fête de monde. Est-ce qu'on a eu, c'est-à-dire on a eu des retours comme quoi, parce qu'une fête organisée à tel moment, il y a un problème? Moi, je n'en ai jamais entendu. Du moment, il n'y en a pas. Bon, il ne faut pas qu'on embête les gens, quoi.
D'accord. Et puis, je vais chuter le bruit. Donc, les autres cantons vont désormais bouder à l'exemple. Je suis sérieux. Parce que ce que nous on entend de par, sur les plateformes même, on veut nous superposer à l'exemple comme étant la fête supérieure. Donc, les gens vont nous bouder. La preuve, moi, je ne suis pas allé cette année. C'est la preuve. C'est-à-dire qu'aucun peuple n'est supérieur à l'autre, quoi.
Et vous pensez que c'est du zèle de la part?
C'est du zèle et c'est la division qu'on veut semer dans le genre.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Intéressons-nous à un autre sujet, parlons politique. Jean, Canal D, votre journal Canal D, vous titrez à la une ce matin, bien sûr, 16e séance du CPC, l'amélioration du cadre électoral au menu des discussions, 23 formations politiques sur 26 au rendez-vous, le renouvellement de la CENI après les sénatoriales. Alors, on comprend tout simplement que déjà ce matin, il doit y avoir même cette rencontre à l'heure du CPC et avec les partis politiques tels que vous l'avez si bien dit. Alors, là, il y a beaucoup de sujets, même à l'ordre du jour, tels que vous l'évoquez déjà à la une de votre journal.
Oui, la rencontre a eu lieu le 17, c'est soit mardi dernier. Il faut dire que 26 formations politiques ont été invitées, mais 23 ont répondu présentes à l'invitation. Et depuis la 15e session, vous savez que le bureau a été renouvelé.
Mais il y a une autre rencontre aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est une rencontre avec le ministre du Commerce,
d'accord.
Comme je l'ai dit tantôt, puisque le bureau a adressé un courrier demandant au ministère du Commerce de venir s'expliquer sur le pourquoi de la vie chère et quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour améliorer les paniers de la ménagère. C'est ça que va apporter la réunion d'aujourd'hui. Mais le mardi dernier, vous savez que les sénatoriales sont à l'heure du jour depuis la 15e session. Et actuellement, le Togo est en train de s'organiser pour rapidement qu'on ait ces élections, les nouveaux sénateurs dont on nous a parlé depuis un bon temps. Et donc, Les acteurs sont réunis mardi dernier. Il était question à l'ordre du jour, c'était l'amélioration du cadre électoral, parce qu'on a de nouvelles élections. On a eu une nouvelle constitution le 6 mai dernier. Nous sommes dans la 5e République. Et donc, il va falloir arrimer le nouveau code électoral à la nouvelle constitution. Et si vous l'avez suivi dans le conseil le compte-rendu du conseil des ministres hier, cette question a été évoquée. Parce que déjà, en amont, les acteurs politiques ont jugé nécessaire d'aller vers une amélioration du cadre électoral. Et aussi, il faut ajouter que la question du renouvellement de la CENI s'est posée dans le débat. Et de commun accord, tous les acteurs politiques ont jugé que, vu que les sénatoriales arrivent, ils préfèrent que le renouvellement de la CENI se fasse après les sénatoriales. Mais qui tu sais donner à chaque parti politique déjà représenté au sein de l'institution, mais qui a qui de droit pour changer les membres de ces membres au niveau de la CENI. Et donc, visiblement, on se dit que d'ici très bientôt, nous aurons un nouveau code électoral pour organiser les sénatoriales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la CENI sera renouvelée en intégralité, parce que l'Assemblée nationale a changé. Les mêmes personnes ne devraient plus normalement continuer. Mais vu le tanoukou, c'est à l'unanimité, selon nos informations, qu'ils ont décidé que après les sénatoriales, la CENI sera renouvelée.
D'accord. Oui. Sur ce sujet, il y a le journal Le Changement, hein, qui titre « Cadre permanent de concertation ». Ce marché de dupes a encore repris ses travaux. Alors, vous estimez aussi que c'est un marché de dupes, ce CPC?
Bon, moi, je ne dirais pas que c'est un marché de dupes, mais ça a l'air de quelque chose comme ça. Je vais aller un peu plus loin. C'est le bâtiment des rescapés de Sobibor. Voilà. Sobibor, c'est une ville, je crois,
de l'Allemagne,
oui. Et qui a abrité les Juifs,
oui, oui,
qu'on a tués. Oui. Quand ils rentrent dans le bâtiment, ils sont tous nus, ils rentrent dans le bâtiment, personne ne repasse par l'autre porte. Ça veut dire que les gens sont incinérés là-bas. Donc, ce bâtiment-là, c'est précis, c'est ça. Quand vous rentrez là-bas, soit vous avez le courage de ressortir très tôt, ou soit vous décidez de rentrer là-bas et vous êtes fini. Et donc, et aujourd'hui, je crois que le CPC, parce que le CPC n'est pas une émanation d'un dialogue. Chaque cadre qui discute des questions politiques dans ce Togo a toujours été prémédité par un dialogue, a toujours été propulsé par un dialogue. Ici, c'est le régime qui est là, qui a amené des amis venir, on va manger un peu, et j'ai dit manger un peu là, ça a un sens. Ça veut dire que déjà, vous allez voir, on a inscrit certains partis politiques, l'UDS, Santé du Peuple.
Mais et le Front.
Non, ça, c'est le Front. Tout ce qu'on a sur la
Constitution. Oui, il y a des éléments qui se retrouvent dedans. Tu sais pourquoi ils ont été élagués? Donc, je te dis que peut-être c'est un cas de discussion, mais ce n'est pas consensuel. Créer un cadre qui soit consensuel. Je ne regrette pas pour le moment. La NCR est rentrée, il est ressorti. Il semble que la FDL aussi. Maintenant, la DMP n'a jamais participé. Maintenant, actuellement, il participe. Maintenant, il y a un enjeu qui est devant, qui motive, d'abord, pour la DMP, par exemple, avec Adjamago, elle est à l'Assemblée, elle n'a pas de côté. Donc, vous êtes à l'Assemblée, donc, vous êtes, dans la logique, censé être représenté dans tout ce qui concourt,
oui,
à la vie politique. Parce qu'on ne peut pas refuser comment on appelle ça, le chandail dormi sur la natte, je ne sais pas comment on appelle
la courtoisie,
les voilà. Mais quand vous y allez et que vous pensez que ça ne vous avantage pas, quittez immédiatement. Maintenant, il a parlé de la révision du code électoral.
Oui.
C'est vrai qu'on peut réviser le code électoral, mais quels sont les acteurs qui doivent être censés associer à cette révision-là? Ce que je crains pour demain, il y en a des partis qui ont boycotté de siéger à l'Assemblée. Maintenant, ce serait sur une base électorale que ce code-là sera révisé. On vous dira, est-ce que vous êtes à l'Assemblée? Non. Ok. Ceux qui sont à l'Assemblée, comme on a vu des partis bidons, excusez-moi le terme, des partis qui ne représentent qu'eux seuls à l'Assemblée. C'est les mêmes personnes qui se retrouvent à la CENI. Ils se retrouvent dans toutes les ramifications politiques de ce pays quand il s'agit des élections. Et donc, ça veut dire que il y a des partis qui ne seront pas concernés par la nouvelle CENI qui va se constituer. Si éventuellement il doit avoir une nouvelle CENI. Donc c'est un calcul politique que certains ont fait en ne boycottant parce que vous boycottez tout. Mais il va falloir quand même. Des fois, on arrive à demander, il faut négocier avec les diables pour avoir la queue. Parce que vous, quand vous tenez la queue là, il sera rougi. Mais quand vous tenez ça, vous le tenez, il est foutu. Donc négocier un peu avec la queue. Moi, on ne négocie pas à n'importe quel prix. Donc c'est ce que l'ANC et l'autre ont compris, ils ont quitté. Maintenant, je crains aussi pour eux, parce que pour avoir quitté, surtout pour n'avoir pas siégé au Parlement. Pour avoir quitté le CPC, je veux regretter le dernier coup parce qu'ils ont quitté. Parce qu'il y a du rien là-bas. C'est en cela que je peux regretter un peu que la DNP se retrouve là-bas. Mais quand ils vont constater aussi qu'il y a du pipeau, ils vont aussi ressortir. Ils n'ont jamais fait l'expérience. Ils n'ont qu'à faire l'expérience, peut-être qu'ils vont ressortir. Mais participer au débat à l'Assemblée là, siéger au nom du peuple togolais, c'est ce qui a manqué à cette partie. Donc, le code électoral qui va se faire, si ce doit être fait sur des bases consensuelles et inclusives, moi, en tant que journaliste, je peux apprécier cela. À sa juste valeur.
Alors, oui, les gens, c'est vrai que vous avez parlé de renouvellement de la CENI, mais il y a d'autres institutions également qui ont besoin de renouvellement aujourd'hui, à savoir même la RAC.
Oui, avant d'arriver à la RAC, je vais embrayer avec à ce qu'Ambroise a dit. Vous savez, le CPC aujourd'hui est, se veut comme un cadre de discussion. Un cadre où chaque acteur politique, chaque formation politique vient donner son point de vue. Et si vous-même, vous vous soustrayez de ce cadre-là, après, ce sera compliqué de venir dire qu'on a fait certaines choses contre vous. Aujourd'hui, si la CDPA y est, c'est qu'elle a compris quelque chose. Parce qu'avant, c'est les gens qui avaient boycotté ce cadre-là. Mais quand vous n'allez pas tout ce qui est fait, vous n'êtes pas vous-même impliqué, mais après, vous allez crier, mais personne ne va vous écouter. Il est mieux, moi je pense, d'aller et dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Et là, au vu de l'opinion publique, on sait que bon, vous n'avez pas boycotté. Parce que jusqu'aujourd'hui, certains n'ont pas compris que la politique de la chaîne vide n'arrange pas véritablement. Il est mieux d'être là, à la table, et vous dites ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez, vous dites « Ah, on n'est pas d'accord, voici telle position qui a été faite, on n'est pas d'accord. » C'est l'élément mieux. Et quand on prend un parti comme l'ANC aujourd'hui, qui a refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Mais ce parti n'aura plus de représentants dans la CENI quand il sera renouvelé. C'est ce que peut-être les gens ne comprennent pas. Mais ce parti a refusé d'animer la vie politique. Vous avez été élu, j'ai refusé. Mais il ne trouverait plus de place là-bas. Et quand les gens, je veux dire, peut-être sur le coup des émotions, bien, on n'a pas fait tous les calculs, on prend des décisions, il faut comprendre qu'après, on sera rattrapé par certaines décisions. Tu as tantôt parlé de certaines décisions comme le RAC. Véritablement, ça fait 3 ans que les anciens sont toujours là actuellement. Personne ne nous dit pour quelles raisons ils sont là. On a nommé d'autres personnes jusqu'à présent qui n'ont pas pris fonction. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances d'abord à l'institution parce que le vice-président Komar Beka a tiré sa révérence. Paix à son âme, condoléances à sa famille biologique et à toute l'institution. Mais au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui dans la 5e République. On ne sait pas. Est-ce que les personnes qui ont été élues avant que la 5e République ne prenne fonction, est-ce qu'elles sont gardées d'office ou est-ce qu'on va faire une nouvelle élection? Actuellement, c'est un embrouillamini. Personne ne sait vraiment à quelle sauce ces gens-là seront mangés. Et quel sera le sort qui sera réservé à ces personnes-là qui ont été élues? Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a des thèses républicaines. On a encore un an, jusqu'en mai 2025, pour mettre en place les institutions. Mmh. On se dit peut-être qu'ils vont patienter jusqu'à avril 2025, mais la couture finale, personne ne peut actuellement la dire.
Oui, mais Ambrose, est-ce que ça ne porte pas un coup à la République? Si tant est que déjà les institutions qui devaient normalement être renouvelées sont toujours là, il y a des gens qui sont déjà dans ces institutions et qui animent toujours ces institutions, tandis que l'Assemblée nationale a déjà élu un certain nombre de personnes pour le renouvellement de ces institutions.
Ah, c'est une très grande question que tu poses et qui est en même temps pertinente. Je l'avais dit déjà dans The Guardian, il y a de cela, je crois, un mois et demi, que la 5e République est là, mais il n'a pas de fondement. Le premier fondement d'une République, c'est la Constitution 7. Une Constitution qui a déjà été boudée par le peuple, qui n'a pas l'assentiment du peuple, qui n'a pas l'unanimité du peuple. Et ça là, même si on a mis sur le toit de devenir, je me dirai. Secondo,
Le deuxième socle, c'est les institutions, les soubassements qui doivent conduire cette fameuse République-là. Si tant est que ceux-là qui l'ont conçu sont d'accord que ça avance. Nous, on n'est pas d'accord avec cette République. Parce que la 4e République n'a jamais été vidée. Et maintenant, quand on parle d'institution, vous allez voir, ils vont aller cogner les murs là. Moi, je vous ai dit ici que les gens vont encore aller. Tu sais pourquoi? On a commencé par arrêter les gens pour rentrer, pour mettre en prison. Taisez-vous. Taisez-vous, parce que nous menons ce cafouille en attendant. Vous ne pouvez pas nous agiter votre colère. C'est-à-dire que le fait de nous menons ce cafouille, il ne paye pas des critiques. Des petits jeunes, des lycéens, ils sont envoyés en prison. Certains qui prennent des vidéos quelque part, qui sont envoyés en prison, machin. Mais nous, on va continuer par le dire. Vous savez, moi, j'ai plus de 50 ans. Et moi, je me dis, le combat pour la liberté, la justice et la vérité, je vais le continuer jusqu'à ma mort. Et je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour le faire. Même mon papa, s'il est vivant, ma grande soeur qui est décédée, tout ça là, ils ont beau dire des choses. J'ai un principe de vie. Et ce principe est cardinal. Quand tu fais, tu n'es pas bon, je le dis. Quand ce n'est pas bon aussi, quand c'est bon aussi, je le dis. Faut nous trouver à distribuer des kits la dernière fois, dans les centres de santé, non. C'est une très bonne chose. C'est ce que les Togolais veulent. Il n'a qu'à faire aussi diminuer les prix. Mais dans les institutions là, comme on nous a dit qu'avec la 5e République, le Togo sera plus haut, et il y aura beaucoup de prix, mais il n'y aura pas d'inondation. Avec la nouvelle constitution, les Togolais vont avoir le stage à 300 francs. C'est là le truc que je fais de la nouvelle constitution, hein. De la 5e République. Parce que ce que les gens vont chanter sur les médias là, je me dis qu'actuellement je suis le médias, je vais le 4-4-9, 2-4-4.
Avec la 5e
République. Oui, que le dépôt après presse sera 2 milliards au lieu de 150 millions.
C'est ce qui a été dit, hein.
Non. C'est ce que les gens nous ont chanté sur les médias là. C'est tout ce qu'il faut pour faire avaler cette constitution là, cette République aux gens, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, moi je constate que ma situation est pire qu'avant. Ou peut-être. Nous ne sommes pas encore dans la véritable 5e République. Donc, ok, je considère que nous sommes à cheval entre 4e et 5e. J'attends un an.
Nous sommes en période transitoire.
Donc, toute femme qui est grosse et qui est en période de gestation, elle souffre. Ok, je considère que nous souffrons en attendant. Mais je donne un an. Je donne un an pour que j'ai mes 2-4-4 pour revenir à ça et sa maison, que Pascal ait ce qu'il veut, et que le Togolais achète le bon de manière à 500 francs, le lit d'essence à 350 francs, et qu'on ait le train de Saint-Cassier à Lomé, qu'on ait échangé à Tikoumé et à GTA, dans la zone portuaire, ça fait 3 échangeurs, comment je demande, qu'on ait un hôpital de référence, un hôpital de gros standing, quoi,
public.
On ait un marché, comme moi j'avais vu à Nairobi, à Addis Abeba et à quoi?
À Cotonou
ici. Vous comprenez le mal, ouais. C'est grand marché là. Ouais. Donc, il y a plein de choses que nous voulons. Si c'était un temps tel que la société lui-même nous apporter ça, oh, pas notre idée, que je te donne une longue vie.
Au pouvoir.
Pas au pouvoir. Pas au pouvoir. Que je te donne une longue vie pour que, très prochainement, tu décides de partir et de mettre la norme en ton pouvoir, ce que tes successeurs vont faire pour les critiquer et de les ramener à la raison.
D'accord, merci Ambroise. Oui, mais Jean, c'est vrai que Ambroise en parlait tout de suite, concernant surtout cette exclusion, j'allais dire, de trois partis politiques au sein du front, tous par la Constitution. Il y a le journal Le Changement qui est revenu sur le sujet ce matin. Crise de l'orientation politique, le front tous par à ma Constitution nettoie les écuries. Médogué, Georges William Cousin et Antoine Folly, chassés comme des chiens galeux. Alors, c'est ce que le journal dit, bien sûr. Quand tu as appris cette décision alors du front touche pas à ma constitution, est-ce que vous êtes arrivé quand même à comprendre le front?
Au prime abord, j'ai été un peu étonné par la décision. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que certains acteurs sont exclus? Mais après analyser, j'ai compris la logique de la chose. Vous savez, il faut que l'on soit conséquent avec soi-même. Comme plusieurs fois on l'a dit, quand à un moment donné vous êtes dans un attelage et vous vous rendez compte que ceux qui sont attelés avec vous ne sont pas dans le même esprit que vous, le fond touche pas ma constitution a été mis en place pour lutter contre la nouvelle constitution et la 5e République a été mise en place. Mais si au cours du parcours, le PS s'est rendu compte que certains acteurs politiques qui au départ étaient avec eux, aujourd'hui ont commencé par tenir des propos tendant à valider la nouvelle constitution. Il est de bon ton que le Front prenne ses responsabilités, parce qu'ils ne sont pas dans la même vision. C'est deux personnes qui sont mises d'accord, qui marchent ensemble. Quand vous avez Antoine Folie et consorts, peut-être qu'ils aujourd'hui dans leurs propos, tendent à dire, ah bon, c'est déjà fait, il faut qu'on avance et tout, mais ils ne peuvent plus avoir le même idéal, la même vision de la chose. Et c'est dans l'ordre normal des choses que cela arrive. Moi, je ne suis pas étonné quand même que ceux qui continuent pas à s'opposer le fassent bien, que ceux qui ont décidé de rejoindre la BAC, qui rejoignent la BAC parce qu'ils ont trouvé peut-être qu'ils n'ont plus suffisamment de poumons pour tenir face à l'adversaire. Voilà. Mais ceux qui ont continué, qu'ils continuent.
Est-ce que vous êtes surpris de cette décision du Front? Je ne suis pas surpris, tout simplement parce qu'on connaît les mouvements, les agissements et les propos tenus par certains de ces acteurs politiques, que ce soit du côté de l'UDS et de
Santé du Peuple,
Santé du Peuple, mais et pour le cas de Mathias Onatraoré et tout ça là, surtout le cas d'Adi où c'est un député allé en Inde, tout ça là c'est des cinéastes. Et donc, je dis que c'est des gens qui ne doivent même pas être, comment on appelle ça, à la CENI. S'il faut reconstituer les gens qui sont dans la CENI, c'est ceux-là qui ont eu au moins un quota au cours de certaines échéances électorales, que ce soit au niveau des communales, peut-être au niveau des gens interdits passés, qui ont été vraiment des élections frauduleuses. Je me dis, s'il faut se contenter de ça, là d'accord, mais UDS, Santé du Peuple, tout ça là, allez à la CENI, vous quoi? Oh, mais je dirais que si les deux
notamment. Au titre de parti, elle sera parlementaire.
Elle sera parlementaire. Les Jéritamans et autres, les camarades et autres sont allés à la CENI et autres, hein. Pourquoi pas les Santé du Peuple? Au moins, on pourrait leur accorder le bénéfice du doute, parce qu'ils ont mobilisé la foule pour l'opposition par le passé. Même si c'est des deux dernières années, on ne le sent plus. Parce que, vous savez, le Togo a un problème. Quand le politicien a ce qu'il avance en âge, il préfère aller se casser quelque part et chercher à manger. Et éviter des problèmes. J'ai vu des gens, par bizarrerie, au sein de cette histoire de CPC là. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pitié de voir. Parce que j'ai dit, mais lui est-ce qu'il est ici? J'ai compris que pourquoi il ne sait pas que le vent réclame beaucoup de choses.
Quand la NCI était, est-ce que c'était à cause de la politique du ventre?
En fait, la NC avait gagné les députés par le passé.
Oui.
La NC avait gagné les communes par le passé. C'est un parti qui représente quelque chose dans le pays. La DNP aussi. Donc, les autres là, dites-moi.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Et on va maintenant en arrêter là par rapport au débat. Et nous allons donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous, puisque c'est le principe de l'émission. Nous allons vous donner la parole sur le 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur que nous avons. Allez.
Allô.
Oui, bonjour. Votre nom c'est
Yao.
Yao, diminuez un tout petit peu le volume de votre poste à côté de vous.
C'est Yao. J'appelle depuis le Grand Marché.
D'accord, allez-y.
C'est ma première fois de participer à cette émission. Je vous remercie pour tout ce que je vous propose. Et je suis d'accord avec M. Yao Sango. Vous n'êtes pas lui?
Oui, oui. C'est lui.
Moi aussi, on m'appelle Yao. Nous, on est comme ça. On aime dire la vérité. Concernant la troisième, la cinquième république, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est comme ils ont fait tout ça là pour pouvoir s'enrichir de jour en jour. Et nous, les citoyens, les pauvres citoyens, on est frustrés dans ce pays-là. Donc, tout ce que mon grand-père a dit tout à l'heure, il a dit la vérité. Moi, je ne suis pas un seul chauffeur de taxi. Ce qui nous arrive sur la route, le corps a dit vraiment, c'est comme la corruption a gangréné totalement notre pays, de Dieu qui combat. Donc, je vous remercie. Que Dieu vous garde.
Merci.
Ayez le courage de dire toujours la vérité. Je vais la corruption. Merci.
Merci beaucoup, M. Yao, depuis le Grand Marché. Allez.
Allô.
Bonjour, papa Sardiné.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oh, ça va. Et je vous?
Oui, ça va aussi, par la grâce de Dieu. Allez-y.
Dieu merci. Mm. Bon, ce papier-là, est-ce que vous croyez que ça peut accoucher quelque chose? Ça ne donne rien. Quand je vous fais créer pour 3 mois, c'est que j'ai plus d'un an maintenant. Qu'est-ce que ça m'a donné? Que vous m'avez changé de la vie quotidienne de ce volet? Ah, Dieu merci. Bonne journée.
Allez, bonne journée à vous aussi, papa. Oui, bonjour, madame Messie.
Voilà, vous tenez aussi comme nous, et puis nous autres, nous, on est là, à la réussite, que de nous réunir en téléphone pour vous appeler. Je fais un petit peu. Voilà. Vous avez parlé du tout de rien. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me rappeler à quelle année on a fermé les gens? Allô?
Oui, madame.
Oui, allez, je suis revenu dans ce pays, j'avais lancé cette histoire de baril, du prix du baril, à Zut, dans le temps. Je vais parler pour vous. Allez, monsieur Dimaï, et on pouvait nous vendre le dans le temps. On peut toujours, on peut encore nous le vendre comme si. Si on a fermé, je crois que on pourrait nous refaire le ciment. Je l'avais dit la dernière fois, la somme de ciment, 25 000, ça suffira. Et puis, tu achètes 1 000 francs de crédit, tu peux l'utiliser durant 6 mois. Les satellites sont installés. C'est gratuit. Et puis, voilà. On va plus avoir, après que 0 temps, on sera dans l'Eldorado. Elle était affirmée avant. Depuis les accidents, je vais vous j'ai un parent dedans, une parente qui est partie enterrer sa mère à Cara, elle revenait, hier m'a lancé un cri d'alarme, elle est venue de tout ça, elle a l'air de tout quand même. Mais bien arrangé quoi. Et puis voilà, donc c'est les routes, et puis le prix du fil, de l'essence aussi, et puis les gens qui rechargent. Ils vont vite, peu aller, revenir, les routes qui sont cassées, et ça va vite pour rentrer dans cette montée, tout ça l'englobé, donc la voie actuellement du jour.
D'accord, merci beaucoup, pas. Madame Messier, pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, bonjour,
monsieur. Oui, monsieur Moutor, allez-y.
Là, le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Est-ce que vous pouvez nous donner la vérité des prix? Monsieur Pondio, tout ce que vous avez dit maintenant sur le carburant,
oui.
C'est une vérité. Si j'ai voté uni ou pas, tout le monde est dedans. Maintenant, on m'a invité un jour, d'autres confrères là-bas, ils vont dire le contraire. Comment vous trouvez vous-même vous la faites pour ce problème? Ils vont dire carrément le contraire de ce que vous avez dit là. Comment vous trouvez même la faites ce volet? Par rapport au CPC, moi je trouve que c'est un marché de jeep, ça ne va rien accoucher. La preuve, nous avons eu cette preuve. La CPE était là. Et ils ont imposé la 5e République. Et ils vont discuter de la 5e République au CPT. Pourquoi ils n'ont pas dit ça en amont avant de nous imposer cette condition? Merci, bonne émission.
Allez, bonne journée à toi. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Johannes.
Ah, Johannes.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Ça va bien.
D'accord.
Et de votre côté.
Ça va aussi, pas la grâce.
Okay.
Allez-y.
Bonjour, la courage. Et. Je viens plus le nom de notre collègue.
Et c'est Jean Pollerini.
Jean Pollerini, voilà. Bonjour à vous. J'apprécie toujours la courage dans ses envolées.
Ah, mais Johannes est parti. Johannes, vous pouvez rentrer en ligne, vous pouvez revenir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je ne peux pas être Armand.
C'est Armand.
Oui, bonjour le plateau.
Oui, bonjour.
Oui, il faut dire que nous sommes tous des Togolais, comme l'a dit quelqu'un sur le plateau. Et il va falloir un temps soit peu, on puisse écouter tous les Togolais, aussi bien ceux qui sont en pour que ceux qui sont contre. Donc moi, je pense quand même que le cadre permanent, c'est quelque chose qui est bienvenu. C'est vrai que nous ne sommes pas, bon, il y a certains partis qui ne sont pas au pouvoir, mais ils sont des Togolais, ils sont des idées pour l'avancement de ce pays. Et on doit les écouter. Il va falloir quand même que tous ceux qui se protègent, je ne sais pas quoi, on a arrêté qui, on a fait quoi, il va falloir regrouper tout cela pour aller vers ce cadre. Parce que vous, dans notre côté, moi, je suis, je ne peux pas, il faut arrêter ça. Si on vit, on est un homme public, et on veut agir pour le bien de certaines communautés, on doit savoir faire les choses.
D'accord.
Sinon, ça ne peut pas la faire.
Okay. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
C'est Nyamavo, monsieur.
Voilà, allez-y.
Oui, l'interdiction ou bien synchroniser les personnes. C'est un petit peu que j'avais appelé. C'est ça, beaucoup avec mes enfants. Je dis souvent que le prêtre est descendu rester à l'auvent. Depuis la nuit des temps, il faut suivre le calendrier du boss avant que voilà ne commence. D'accord, il faut parce qu'on doit faire la proclamation de bâche et bien quoi. Bon, or, les prêtres ont leur calendrier. Mais le calendrier est bousculé parce qu'on n'a pas d'autorité pour arriver. Bon, ceux qui disent que la politique de l'intérêt, quoi qu'on fasse, c'est la bonne chose. Voilà, c'est aussi sur la vente maintenant que, bon, on va nous arracher le peuple personnel. Donc, si on veut nous arracher le peuple personnel, qu'est-ce que vous allez faire? Comme de la politique. C'est-à-dire que la politique qui fait qu'on veut nous arracher le peuple personnel. Le calendrier de cette traditionnel. Vous avez compris ça? Réveillez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas de se lamenter. Donc, tous les Togolais vont savoir qu'un jour, eux-mêmes, je ne sais pas, ils vont s'enterrer, quoi. Ils vont s'enterrer comme ça. Il n'y aura plus de l'histoire. Parce qu'on est en train de voir comment on manipule les chefs quand ils prennent la parole, l'émotion, tout ça, là. Voilà. Donc, nous sommes pris. Je vous remercie.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Namamou. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Bonjour, Bami.
Oui, mais.
C'est Mathéma.
Oui, Mathéma.
Je parle de la vie chère. Vous savez, moi je crois que j'avais dit un jour que si on pouvait vendre l'air que nous respirons, les Togolais devaient mourir depuis. Et on devait fuir nous tous. Tout ce qui se passe, tout ce que vous avez cité, le Togo, c'est riche. Il y a les péages par ici, même les motos payent, tout ça là. Mais là où on est là, là où on est là, je vous assure que le pays est en train de s'enfoncer au jour le jour, sincèrement. Deuxième chose, les fêtes traditionnelles. Les fêtes traditionnelles, ça là, ce n'est pas. Les fêtes, ça c'est politique. Ce que les gens là sont en train de faire à Kiri, là, quand tu es là, le marché du pays, vous savez, dans ce pays-là, le régime a monopolisé tout pour dire que la fête traditionnelle, et qu'ils sont présents, et ça marche. Si le président interdit ça, c'est parce que l'autorité n'est pas là-bas, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, non? Donc, il ne peut pas trouver et les gens, tout est sûr. Donc, c'est pourquoi il arrête. Tout ça, les chefs. Qui impose à la population. Est-ce que c'est comme ça? Donc, et je voudrais revenir un peu en arrière pour parler de cela, ce qui se passe. Vraiment, les Togolais, c'est comme si c'est la course. Non, faisons tout pour laisser, quand les élèves, ou bien quand on voit un piéton se positionner, arrêtons-nous, laissons-nous piétons traverser la route. À tout moment, tout le monde peut devenir piéton. Donc, je vous remercie. Je salue Jean Legrand.
D'accord, merci beaucoup Nathalie pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Ah, Johannes,
voilà.
Oui. Bon, vous savez, juste pour vous dire à que nos dirigeants n'ont pas de vision au Togo. Voilà, il y a un journaliste qui l'évoquait sur le plateau pendant le débat. Il lui a reposé la question, bon, je dirais plutôt de manière étonnée, si réellement il n'y a pas de vision au Togo. Au Togo, il n'y a pas de vision. Il suffit de voir ce que les dirigeants font dans d'autres pays, ne serait-ce que les pays voisins du Togo, pour savoir ce qu'on appelle réellement une vision. Voilà. Vous savez, concernant cette affaire de diminution du prix du baril, c'est très simple. C'est-à-dire que ce que nous avons au Togo, c'est que quand le gouvernement, nos dirigeants sont assis sur un robinet d'argent, ils n'aiment plus fermer ce robinet-là. Peu importe comment les populations souffrent derrière ce robinet pour que l'argent puisse sortir de ce robinet, peu importe comment les populations saignent derrière ce robinet, le gouvernement ne va jamais accepter de fermer ce robinet parce que c'est une source de revenus. Peu importe. Tout ça vient. Le fait est que ça tombe dans la caisse. On ne paye jamais ce qu'on nous réalise dans le pays avec cet argent. Autre que tout est cher. Le gaz est cher. Le carburant est cher. Les moutons qu'on nous vend dans autre goût sont plus chers que dans le pays à côté. Nous dédouaner les choses pour pas est cher. Mais comment? Tenez le gars, vous voyez combien on nous paye dans ce pays, combien on gagne comme ça dans ce pays. Et vous allez vous demander, mais quelqu'un de dirigeant ont réellement? Je vous pose chaque jour cette question. Merci, bonjour.
D'accord, merci beaucoup, Johannes. Johannes, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi. Nous allons observer un impératif au niveau de la technique. Nous revenons.
Donc, la célébration prolongée des journées mondiales des transports, du tourisme, la journée mondiale de la mer, 16 septembre, 27 septembre, 30 septembre, participez au CIEMTRAL 2024, le troisième salon international des transports et logistiques, salon de l'économie maritime connexe, événement couplé à la troisième fois, automoto, trucks, poids lourds et connexe, le tourisme voyage du 18 octobre. Au 3 novembre 2024, place de l'indépendance de l'ONU à côté de l'hôtel de février. CIEMTRAL 2024, véritable opportunité d'affaires via des conférences et panels. B2B, formation et sensibilisation sur les dernières innovations en transport et logistique. Économie maritime et ouverture sur l'univers de l'automobile en Afrique. Info plus 228-92-96-96-98-92-30-30. 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission et maintenant nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Merci à tous qui avaient toujours réagi dans cette émission. Alors, Jean Legrand pour nous avons écouté les uns les autres se prononcer aussi sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Oui, moi je vais revenir sur le dernier intervenant qui a parlé de la vie chère.
Johannes.
Johannes. Véritablement, c'est compliqué pour les Togolais. C'est vraiment compliqué et que nos autorités vraiment essaient de voir comment vraiment améliorer le quotidien. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'émeute, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violence que on va dire qu'on est en paix. Parce que quand les gens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, mais maintenant même 2 fois pour plusieurs, il faut dire que c'est compliqué. Et en plus avec la rentrée scolaire qui a démarré, nous attendons vraiment des propositions concrètes à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui que le CPC va tenir, que véritablement on puisse trouver des solutions pour aménager et améliorer le panier de la ménagère. Moi, je voudrais également inviter toutes ces associations, tous ceux qui sont un peu nantis à se souvenir de ces enfants défavorisés. Plusieurs associations le font déjà. Nous avons parlé de 2 associations. l'association Azaed et puis l'association Nénuphar et Lotus qui ont offert des kits scolaires à des enfants à Yévier-Pied dans le Coteau et à Gati dans le canton de Batopé. Et nous invitons toutes les bonnes volontés à emboîter le pas. À côté de vous, vous pouvez avoir un enfant qui a des soucis, des difficultés pour aller à l'école. Le peu que vous avez, essayez également d'investir parce que quand vous sauvez un enfant aujourd'hui, vous l'aidez à aller à l'école, c'est une élite du futur que vous êtes en train de sauver. Ne fermez pas vos cœurs et ouvrez vos mains.
Ouvrez vos mains. Votre note de la fin de...
Je n'ai pas de note de fin. Juste ce que je voudrais, c'est interpeller les autorités par rapport au feu tricolore du Carrefour GTA. Ça fait plusieurs mois que ces feux sont en panne.
Il n'y a pas que GTA, même des comptes tout près de nous.
Mais, et ça ne fonctionne
ça
pas.
Ça ne fonctionne pas.
Même pour GTA qui est un Carrefour central, je me pose des questions. Mais nous tous, nous savons que GTA, c'est un Carrefour central. C'est-à-dire, vous venez de Zongo, d'Ago, de la prison, tout ça. Tout le monde passe par là. Mais pourquoi est-ce que toujours, il faut qu'il y ait des hommes en prix pour pouvoir régler la circulation. Quel est le problème depuis là? On est toujours là. On dit que nous sommes un pays développé. Un pays développé, on ne doit pas fonctionner comme ça. Et tout le temps, on en parle. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas mort, parce qu'il n'y a pas d'accident grave, qu'on va continuer dans la médiocrité? Non, il faut que ça s'arrête.
Je comprends votre émission, Jean-Paul Rémy, sur cette question. Ambrose?
Oui, j'ai suivi aussi l'autre Yao, mon homonyme, qui a effectivement relevé ce que sont les Yao habituellement. C'est les gens qui sont directs, ils sont francs et empreints de vérité. Il n'a pas menti. Tous les Yao, vérifiez tous les Yao qui sont dans vos coins, dans vos maisons, à part quelques rares cas. Bon. Maintenant, moi j'estime qu'on en a discuté de tout. Sauvons le Togo. Il faut que nous, les médias, les journalistes, nous sauvions le Togo. Parce que si les politiques n'arrivent pas à sortir le Togo de sa situation actuelle, où on a des gens qui sont là, ad vita aeternam, qui refusent de bouger les lignes, de faire la volonté du peuple, il appartient à nous, journalistes, quel que soit notre entendement, notre considération, nos bords politiques, notre ligne éditoriale, de sauver le Togo. Je voudrais finir
rapidement.
Ce matin, venant, j'ai vu au niveau de la mairie d'Offset, il y a deux voies. Il y a la voie qui part par le goudron pour venir au siège de la mairie. Il y a l'autre voie qui quitte par l'ancien commissariat 9e pour venir à la mairie. À 100 mètres du siège de la mairie, vous ne pouvez pas passer. J'étais obligé de retourner. Moi, j'allais vers le marché. J'étais obligé de retourner. On ne dirait pas que nous sommes proches d'une mairie. Vivement que les autorités de cette commune-là puissent rapidement chercher des carins capillaires pour rambler là-bas.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Ambroise, d'être passé dans cette émission. Merci, Jean, le grand Paul Rémy, d'être passé aussi dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Vous qui nous avez suivis, merci à vous. Vous qui nous avez appelés aussi, merci pour cet acte civique que vous venez alors que vous posez. Merci à vous aussi, chers techniciens. Je vais bien parler alors de mon cher ami Michel Tomida qui a assuré la mise en ligne de cette émission. Gérard Apoutia a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve demain, vendredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Côte de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.